Et salut à toutes et à tous, amis des ondes, curieuses et curieux de tous azimuts. Soyez les bienvenus dans l'Onde Curieuse, le magazine d'information locale et loquace de Fréquence 7. Salut Sylvain.
Salut Quentin.
Je viens d'arriver en studio, un peu au pas de course, c'est un peu de la dernière minute, mais on est content d'être là. Nous voici de retour dans le studio fixe de la radio, après avoir passé tout ce long week-end de l'Ascension. En voyage, j'ai la voix un peu enrouée d'avoir tant raconté, tant vécu. La caravane studio de Fréquence 7 était sur le festival de la Joyeuse Escale, à Joyeuse donc, organisé par nos confrères d'Allo la Planète. Nous avons rencontré là-bas des voyageuses et des promeneurs, des aventurières, des poètes, des casse-coups, cinéastes ou auteurs ou autrices, parfois tout cela à la fois. Et comme on rentre tout juste de ce périple joyeusin, on est encore tout plein des brumes de ce festival, un peu comme l'odeur de Nag Champa imprègne les personnes qui reviennent d'Inde, un peu comme le sable qu'on retrouve dans ses poches 3 semaines après être revenu de la mer. Alors, pour cette onde curieuse, nous vous proposons une table ronde qui était organisée au cœur du festival par Sophie, en présence de Florence, coordinatrice du festival, de Perrine, navigatrice au long cours, et de Rémi, aventurier coureur. La thématique de cette table ronde, c'était le voyage comme un dépassement de soi. On écoute ça en deuxième partie d'émission, juste après quelques infos. J'aimerais ouvrir ce point d'information avec le bilan des 30 ans du Technival qui s'est déroulé tout ce week-end dans l'Indre sur un terrain privé. Alors il y a encore du monde sur place, ils sont encore 4000, les gendarmes espèrent qu'il n'y aura plus personne d'ici ce soir. Ça n'a pas l'air très local comme ça, mais sur les quelques 40 000 personnes qui s'y sont rendues, je suis certain que quelques-unes venaient de chez nous. 40 000 personnes, c'est gros. C'est même très très gros. Et encore une fois, l'auto-organisation a prouvé son efficacité. L'arrivée sur le site, malgré les interdictions préfectorales, s'est déroulée sans souci majeur. La préfecture a soutenu les orgas en envoyant 240 gendarmes et 35 pompiers dans un souci de sécurité. Et on voit dans quel ordre de priorité. Les sound systems, les associations de réduction des risques, les secouristes bénévoles ont travaillé main dans la main pour protéger les toughers. L'autonomie du milieu techno et free party semble atteindre une qualité dont beaucoup de festivals officiels ne peuvent se vanter. On a noté sur 4 jours et 4 nuits de musique, de drogue et de liberté, à peine 140 prises en charge par les secours, seulement 7 hospitalisations. Toutes mes félicitations aux organisations et surtout aux gens qui arrivent à se pointer sur ce genre d'événement, à gérer leurs déchets, à gérer leurs excréments, à gérer leur propre sécurité. Je crois que c'est assez notable, ça fait 30 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Dans les informations, toujours, c'est la signature demain d'un partenariat de coopération entre la Comcom du bassin d'Aubenas et la Chambre d'Agriculture. Alors ça devait se dérouler il y a 2 semaines, ça a été repoussé pour des raisons qui nous échappent. Je vous lis le communiqué de presse. Parmi les axes de coopération et d'enjeux partagés, une priorité sera donnée au thème suivant. Le renouvellement des générations d'agriculteurs par la préservation des espaces agricoles. En tant qu'outil de production, l'optimisation du potentiel foncier et le maintien des espaces ouverts, la facilitation des transmissions et des installations, la relocalisation de la production alimentaire en lien avec le plan alimentaire territorial, enjeu stratégique de plus en plus important au vu des perspectives d'avenir, la poursuite du travail sur la valorisation des espaces pastoraux, la reconquête des châtaigneraies abandonnées, l'accompagnement de la capacité d'innovation de l'agriculture dans ses pratiques en s'adaptant au changement climatique, au travers de l'agroécologie, le travail des sols, on dirait le programme de la Confédération Paysanne, dis donc, la mobilisation de la ressource en eau pour optimiser son usage et organiser son partage avec les autres utilisateurs, et l'accompagnement de l'agritourisme pour renforcer l'offre touristique locale et le lien avec les consommateurs. Et enfin, la mobilisation de la ressource en bois. Alors, on espère que cette coopération prenne en compte réellement les enjeux écologiques ainsi que les bienfaits sur le long terme, quitte à renoncer à quelques bénéfices immédiats. On fait confiance à la Chambre d'Agriculture sur ce coup-là. On en reparlera bientôt sur cette antenne. Restez à l'écoute. Et cette semaine, toujours du côté de Jaujac, l'association Déambule organise mercredi 24... Vous voyez, on va être de plus en plus léger comme ça. Hop, mercredi 24 mai, une après-midi de jeux et de grands jeux en bois sur la place de Jaujac. Ça commence à 14h30, ça dure jusqu'à 17h30. C'est organisé par Déambule. Et si la météo ne permet pas de sortir les jeux, alors rendez-vous à la salle des Cévenoles sur la route de la Souche. C'est le parking du skatepark. Petite actu sympa de nos compagnons. Et enfin, cette semaine, on célèbre les 80 ans de la première réunion du CNR. Le CNR, le Conseil National de la Résistance, à qui on doit quand même l'organisation de la Résistance, deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale. Notez qu'une cérémonie se déroulera au Teil samedi 27. Notez que nombre de camarades et d'associations ont participé durant tout ce week-end de l'Ascension à des conférences, des tables rondes et des projections pour faire vivre les résistances écologiques, sociales, féministes et populaires. Ça se déroulait sur le plateau des Glières. On en reparlera aussi bientôt. Notez également que cet anniversaire du Conseil National de la Résistance accompagne en France une montée subreptice du fascisme et on voit ressurgir des vieux réflexes de l'extrême droite un peu partout dans le pays. J'aurais aimé en parler longtemps, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. C'était un des sujets des rencontres des Glières. C'est le constat qu'on peut faire dès qu'on s'intéresse un peu aux événements des jours passés. Par exemple, le 8 mai, tandis qu'on honorait la mémoire de la résistance, de Jean Moulin, 78 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voyait défiler 500 représentants des groupes d'extrême droite les plus virulents du pays, qui défilaient dans Paris, légalement, hein, la manifestation était autorisée, ça, on peut le comprendre. Mais voilà, ils ont défilé tout de noir vêtus, souvent cagoulés, en arborant des croix celtiques, des insignes du GUD, des insignes du bloc identitaire, et même assez souvent le brassard orange de la police. Ça nous interroge un peu sur la connivence des milieux, ou peut-être un simple mélange des genres. Et puis la semaine suivante, on a appris la démission du maire de Saint-Brévin, qui était victime de menaces depuis un moment et d'agressions diverses. Ça s'est terminé avec l'incendie de sa maison. Le maire de Saint-Brévin avait prévu d'installer un centre d'accueil pour personnes migrantes dans son village, à côté d'une école. Ça n'a pas plu et donc, encore une fois, sa personne, son intégrité physique et sa personne politique ont été mises à mal par des gens cagoulés, donc ouais, ça craint un peu. Et enfin, cette semaine, comme j'ai pas préparé grand chose, c'est pas très facile à exprimer. Je crois qu'on a pas mal, on est pas mal dans les amalgames en ce moment et ça fait un peu mal. Parmi les amalgames, on a eu une série d'affichages dans Avignon. Vous vous rappelez sans doute au mois d'avril, il y a un graffeur qui avait représenté Emmanuel Macron grimé en Hitler avec une moustache en 49.3. Et en fait, ça avait déjà soulevé des commentaires vraiment flamboyants de part et d'autre. On savait pas trop à quoi s'attendre. Tout le monde, la préfecture a dénoncé. Une moquerie qui en réfère aux heures les plus sombres de notre histoire, alors qu'en fait bon, c'était précisé que le message était satirique. Et puis en fait on invoque très souvent les heures les plus sombres de notre histoire pour ne pas se permettre de critiquer qui que ce soit. Enfin bref, donc suite à ce graffiti qui a été effacé 2 jours après son apparition, c'est des affiches qui ont pullulé dans tout Avignon avec du coup Macron Hitler avec cette moustache 49.3. Ça a encore créé un gros branle-bas de combat du côté des administrations et des préfectures. On reparlera de ces sujets assez bientôt. Moi, je vous propose de continuer avec un morceau que j'ai découvert ce week-end sur le Crash Musette, du coup un autre festival, j'ai des dédoublements de personnalité. J'étais aussi au Crash Musette, c'est un morceau de Krav Boka et ça s'appelle Illégal, ça a été fait avec les camarades d'un squat grec.
Μας, κοίτα στο καθρέφτη, αντικατροπτίζεται η γενιά μας. Τα όνειρά μας, το μέλλον και η δουλειά μας. Όλα όσα ελπίζουμε για τα παιδιά μας. Οπότε αν δεν αντέχεις τα μάτια σου κλειστά, όταν το μίσο στην αγάπη αντικαθιστά, ενάντια σε κάθε εθνοφασίστα, η μέρα πλησιάζει, θα μας βρουν μπροστά. Θα μακάρκι, τόσο παραπάρκι. Λες και κτατήκι, λόγω τότε
matricule. La rage s'accumule, ma race qu'on est masculine. Prendre du recul, un hiver de canicule. Simple, rempli d'enfants, tape sur les écrans. Le sourire inquiétant de nos dirigeants. Ils ont le drame et sur les mains le sang. De familles entières dans les camps de migrants.
C'était les Krav Boka sur Fréquence 7 avec un morceau intitulé Illégal, un morceau sur comme d'hab, hein, la tolérance envers l'autre, le fait qu'on pourrait l'accueillir comme il se doit. Krav Boka, ma découverte du moment. Ils étaient au Crash Musette ce week-end. Ils sont basés à Toulouse. C'est un groupe indépendant de punk rap. Vous avez mis le mot dessus. Voilà, franco, gréco, marocain, internationaliste. Une de leurs devises, no racism, no sexism, no homophobia. C'était un bon groupe de punk antifasciste sur la scène du Crash Musette. C'était un vrai plaisir de les voir. C'est un vrai plaisir de partager ça avec vous ce midi. La curiosité envers l'autre, c'est quand même un sujet important, quoi. On se demande souvent, mais l'autre ne me ressemble pas. Est-ce que je pourrais apprendre à le connaître? Est-ce que peut-être que ça résoudrait la peur et donc peut-être la haine? C'est une des raisons pour lesquelles certains voyagent, c'est d'aller à la rencontre de ceux qu'on ne connaît pas encore, par curiosité, par attrait de la différence des fois. Et puis parce que au final, plus on se confronte ou plus on apprend à se conjuguer avec ce qui ne nous ressemble pas, plus on est tolérant. C'est une des raisons pour lesquelles on voyage, mais c'est pas la seule. Il y en a d'autres qui voyagent pour le simple plaisir de sortir de leur zone de confort, voire pour se mesurer à eux-mêmes, peut-être dépasser un peu les limites qu'ils pensaient avoir. C'était une thématique assez récurrente pendant la joyeuse escale de ce week-end. Et Sophie a organisé avec notre studio nomade, donc sur la place de Joyeuse, une table ronde à ce propos. Voilà, elle était accompagnée de Perrine, qui a navigué pendant 3 ans et près de 12 000 km sur un voilier, et de Rémi, qui lui apparemment a traversé le désert australien en courant. Parce que je sais pas, ils devaient être pressés d'arriver de l'autre côté. En tout cas, ils ont livré l'un et l'autre leur motif, leur leitmotiv, les raisons pour lesquelles ils se sont lancés à un voyage. Je vous laisse écouter ça et on revient après.
C'est parti, donc bonjour, rebonjour à tous les deux, Perrine et Rémi. Alors, voilà, première question, donc on parle d'un plateau voyage et dépassement de soi, mais juste pour caler les choses, ce qui m'a donné envie de vous recevoir tous les deux, c'est une table ronde qui a eu lieu sur comment vaincre sa peur de l'inconnu. Et qui m'a fait me poser plein de questions, rester sans réponse, et donc je vous invite pour peut-être y répondre ou ouvrir sur de nouvelles questions. Ma première question, c'est comment vous vous présentez? Je ne vais pas vous présenter, mais comment... Alors, peut-être donner la parole...
On va commencer par Perrine. Je suis en face, donc c'est normal que ce soit pour moi. C'est difficile de se présenter parce qu'il y a plusieurs contextes.
Alors, on va quand même parler simplement du contexte voyage-aventure.
Exactement.
Quand même. Tu peux me dire que tu fais des confitures tous les dimanches. Ça peut être une information intéressante, ceci dit, mais ça m'intéresse. Je laisse carte blanche.
Pour après. Tu m'as présenté sous l'angle de la voile, puis c'est la conférence que je donnais. Mais je pense qu'effectivement, ce qui regrouperait un petit peu tout, c'est le voyage lent. Et le point de départ du voyage lent, c'est un burn-out professionnel en 2014 et me rendre compte que j'étais bonne à ce que je faisais, que je pensais que j'adorais ça, et en fait, c'est pas ça qui me nourrissait. Donc j'avais plus de jus. Et je savais que ce qui me manquait, c'était plus de voyages. Et j'écoutais Allô la planète depuis toujours. Et donc, quand j'ai su que je pouvais pas chercher un autre job et rester dans le même milieu, je me suis dit, très bien, je vais prendre un sac à dos, petit, parce que je suis un petit gabarit et que j'avais pas beaucoup de jus, donc 35 litres, et je vais aller voir là-bas si j'y suis. Donc j'ai commencé petit, plutôt en Europe, après j'ai pris mon permis vacances travail, puisque j'arrivais à 31 ans pour la Nouvelle-Zélande. Et à partir de là, en fait, j'ai continué à tester toutes les voies de voyage que Allô la planète m'avait proposées pendant des années, donc... du bénévolat, de la marche, du vélo solaire, j'en oublie plein, de la voile, l'habitant, le stop, solo dédo. J'ai remonté toute la Nouvelle-Zélande une fois que j'ai eu plus de confiance en moi, etc. J'ai tout remonté en stop, c'était extraordinaire, donc tu parles d'inconnu. Au tout début, je me disais, mais zut, ma chance, parce qu'on a tellement de chance en voyage, ma chance va s'arrêter aujourd'hui. Et en fait, jamais, c'était encore plus, encore plus, encore plus. Et tu te dis, mais ça, il faut qu'il m'arrive. Enfin, il faut.
Oui.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Tout le monde m'a dit toute ma vie que c'était dangereux, la vie. Ouais. Donc voilà. Donc je me définirais en voyageuse lente et voyageuse de l'instant, en fait. Le voyage ne s'arrête pas, c'est la vie, pour moi. Mmh. Le plus beau voyage, c'est la vie.
Ah, intéressant. Bah, justement, on va y revenir. Juste, donc, je donne la parole à Rémi. Toi, comment tu te... Je ne vais pas dire définirais, mais comment tu te présenterais?
Il y a le même problématique, c'est en fonction du public que tu vas avoir en face de toi. Souvent, les gens, quand c'est des entreprises, eh bien, je suis aventurier explorateur, formateur en technique de survie, et membre de la Société des explorateurs français. Quand c'est pour des enfants dans les écoles, je leur dis je suis un ancien maître d'hôtel dans la restauration qui est à Vrier et qui est parti vivre ses rêves. Donc c'est pas du tout la même approche. Et j'essaie souvent avec les enfants de leur apporter un peu plus de rêves pour qu'ils puissent de leur côté eh bien, s'épanouir et puis sortir ou plutôt élargir leur zone de confort.
Dans ce que, alors vous avez déjà esquissé des choses, toutes les deux. Pour vous, c'est quoi le voyage? Toi, tu disais... je te laisse
dire. T'inquiète, vas-y.
C'est sa vie.
Voilà, t'as fait vraiment le rapprochement.
Moi, j'ai pas envie de
séparer.
De séparer, voilà, tu vas en parler d'étiquette, etc. Enfin, on n'a pas parlé d'étiquette, mais c'est ça, en fait, l'idée. C'est même ce que je fais professionnellement, pour moi, c'est un voyage. Je suis devenue coach parce que les gens venaient me poser des questions. Et aujourd'hui, les gens, au quotidien, je voyage avec eux, je chemine avec eux, je découvre leur univers et je suis à chaque fois émerveillée et ça vient me toucher personnellement. Le voyage, il est sans fin. Il est sans fin si on a les yeux ouverts, si on est disponible et si on est dans l'échange.
Et alors là, du coup, ma question, pourquoi partir ? Si le voyage est là maintenant, dans l'ouverture, dans la disponibilité,
dans la rencontre,
pourquoi partir ?
Pour ouvrir plus grand.
Pour ouvrir plus grand.
Tout simplement, tu ouvres plus de portes. Et après, tu reviens enrichi et ça nourrit le quotidien. Bon, après, on va en parler un petit peu plus. Moi, je me suis Covid sédentarisée par accident. Et malgré tout, voilà, j'aime être en mouvement. La routine, elle s'installe toujours de toute façon. Je te dis que je voyage au quotidien, mais malgré tout, je me déplace de ma chambre à coucher à mon bureau et j'ai envie d'aller voir les colibris et j'ai envie de sentir le vent sur mes joues et j'ai pas envie d'être entre quatre murs toute la journée. J'ai envie de marcher, sentir mon corps, sentir le chèvrefeuille là quand on arrive ici, qu'on va vers
extraordinaire.
Ouais, exactement.
Ce festival même, juste simplement pour ça, pour passer toujours devant ce chèvrefeuille qui nous amène ailleurs.
Oui, c'est le début du voyage.
Exactement, c'est le début du voyage. Pour toi, Rémi,
Le fait de partir en voyage te permet de mieux revenir. Et c'est comme ça que j'apprécie, j'allais dire, ma vie de tous les jours. Parce que tout le monde kiffe avoir un bon lit. Tout le monde kiffe avoir une bonne douche. Tout le monde kiffe se poser autour d'une table avec des potes et boire une bonne bière. C'est toujours agréable de se rendre compte de ce qu'on a à la maison et d'apprécier les choses. Parce qu'on est tous des humains. Et tu viens de le dire, la routine s'installe et on oublie. Des fois, rapidement, le contexte, comment c'était là-bas, comment j'en bavais, j'en ai eu plein le dos de ça, parce que c'était inconfortable, parce que ceci, parce que cela. Et quand on revient dans la réalité, ou dans une réalité, et on se dit, en fait, c'était plutôt bien, plutôt cool, et la condition de vie que j'ai ici, elle est très agréable, et c'est par le fait de partir, de me mettre dans des conditions, dans des environnements un peu difficiles, où j'élargis ma zone de confort, que je m'aperçois que ce que j'ai à la maison, eh bien, c'est trop bien. De pouvoir voir les sourires de tes enfants, de ta compagne, tout ça, et tu te dis, ça, c'est kiffant.
C'est intéressant, parce que c'est presque contradictoire, c'est-à-dire, tu dis, finalement, le voyage, c'est la vie, c'est-à-dire, c'est incessant. Et toi, tu dis, pour que, finalement, pour qu'il y ait du voyage, pour qu'il y ait un intérêt au voyage, il faut que ça cesse pour donner envie à nouveau de sortir. En fait, si le voyage est tout le temps, c'est peut-être de l'errance. Il y a du voyage parce qu'il y a de la sédentarité d'une manière ou d'une autre. Puis, il y a un mouvement. Et puis, on revient. Et puis, il y a mouvement. Sinon, c'est
Pour moi, il y a forcément une fin dans n'importe quoi. Comme dans la vie, on est, on vit et on meurt. Et en fait, dans n'importe quoi, même si c'est le truc le plus ouf, le plus psychopathe que tu fais, il faut qu'il y ait une fin. Parce que ça peut pas être... une fin. À un moment donné, il y a une fin. Donc il faut l'accepter. Et j'aime beaucoup cet échange, le yin-yang. Tu pars, tu reviens, tac, tac. Et c'est ça qui te fait bien apprécier.
Donne le contraste.
Sur mon livre que j'ai terminé, je compare la vie à la lecture d'une rivière. Si c'était uniquement plat, tout le temps... et il se passe rien, on se fait chier. Alors que si c'est tout en rock'n'roll avec des chutes d'eau à passer, des rapides, etc., ouais, c'est rock'n'roll. Mais à un moment donné, ton attention baisse parce que tu n'en peux plus, c'est fatigant, c'est usant et l'erreur va arriver. Donc la vie, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit cool, un peu calme de temps en temps pour apprécier les choses, être capable aussi de se retourner, de regarder derrière, dire, voilà, la chute d'eau que je viens de faire là, voilà, le truc de ouf, et juste d'être fier de ce qu'on a fait, tout en tournant la tête, en regardant ce qui se passe devant. Ça sert à rien de regarder dans 20 km parce que c'est bien trop loin. Par contre, de regarder à 3-4 mètres devant soi pour se positionner sur la rivière au mieux et l'appréhender, te dire, ouais, là, si je passe là-dedans, je vais me faire découper en morceaux, bah, vaut mieux peut-être passer par là. C'est peut-être un peu moins rock'n'roll, mais plus sûr, etc. Puis des fois, t'es surpris, hop, je m'attendais pas à ça, un truc de dingue. Et c'est comme ça que j'apprécie la vie, c'est parce qu'il y a tous ces moments de haut et de bas. On le dit, la routine est mortelle, mais l'extrême est mortel aussi. Donc il faut juste trouver un moment donné l'entre-deux pour que ça soit fun.
Oui, avant que j'oublie, je voulais réagir à ce que tu disais. Donc sur le contradictoire, moi en fait je le vois comme chapitre, donc je dézoome Et donc la perspective, c'est que tous ces voyages, et dans le voyage, il y a le mouvement et il y a l'étape. Alors peut-être que pour Rémi, c'est différent parce que c'était toujours en mouvement. Moi, mon voyage, c'est je vais quelque part, je me pose avec les gens, j'en profite. Si je prends mon année en Nouvelle-Zélande, parce que je suis en plus en train de me remettre énergétiquement, j'ai passé 10 ou 11 mois et j'étais chez 5, 6 autres, j'en sais rien. Bah, j'y allais et il y a un moment où tu sens que c'est le moment de partir. Il y a un moment où tu sens que tu as reçu tout ce que tu avais à recevoir. Il y a un moment où tu sens l'appel du large. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très intéressant pour moi parce que c'est le moment où je recevais des messages de quelqu'un qui déclenchait le truc, où je parlais à une personne et je disais « Ouais, je sens que là, il faut que je bouge, c'est pas trop, machin. » Je reparlais avec la personne le lendemain, tout était calé. Donc voilà, je pense que rivière, c'est excellent parce qu'il n'y a pas de fin à la rivière si on considère que la goutte d'eau n'est pas séparée de la rivière. Mmh. On est des gouttes d'eau dans la rivière, tu parlais de flot ce matin. Donc voilà, je pense que ça dépend de comment on regarde. Après, pour toi, ça peut être très différent parce qu'il y a un début, une fin, un financement, etc. Pour moi, je n'ai pas forcément de borne. Là, par exemple, je pars à la voile, je sais pas combien de temps ça va durer, et peu importe, ça me va très bien. Et si ça me plaît, c'est ma phrase, si ça me plaît, je reste, si ça me plaît pas, je m'en vais. Mmh. Et je m'en vais, ça peut dire je m'arrête. Et pour terminer, quand je rentre à la maison, je reviens avec des yeux neufs, je reviens avec plus d'envie et je reviens aussi en me disant oh, « Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette nouvelle saison à la maison ?» Tout comme là, tu vois, je suis arrivée de Californie, donc très mauvais, j'ai pris l'avion, mais bon, je suis française. donc j'ai laissé 3 ans de vie en Californie, là, je ne sais pas quand est-ce que je repars. Mais le kiff et le fait de savourer les derniers instants, parce que tu sais que c'est précieux, parce que tu vas le laisser derrière, les petits colibris, les ânes, la mare, le saule pleureur qui est en train de faire grandir ses feuilles, etc. Les petits chatons de ma belle-sœur qui sont microscopiques. Mais tout ça, en fait, quand tu es dans un flot de vie qui n'est pas interrompu en chapitres comme moi, j'aime le voir, et bien ça passe inaperçu parce que c'est toujours plus tard. Et plus tard ne vient jamais. Mmh. Alors moi, j'ai vraiment des bornes et qui me plaisent. Donc ça répond peut-être à ta question sur des fins ou pas. Mais pour moi, je l'inclus dans un tout.
Mais la vie elle-même a une fin. Hein, donc même si le voyage, c'est la vie. Et c'est aussi pour ça, parce qu'on sait que ça va finir, que c'est bon.
Oui.
Et
complètement. Tu n'aurais pas de fin à la vie, ça serait
mortel.
Ça serait mortel. On serait chier, on dirait. Et en fait, tu pourrais prendre un mur à 300 km. Ouais, je viens de me prendre un mur et ça recommence. Et donc, c'est parce qu'il y a une fin que c'est excitant, et de se dire, faut y aller, mais faut pas cramer les deux bouts. Faut être intelligent et réfléchir correctement.
Rémi, alors Perrine, tu disais, vous n'avez pas la même conception, la même conception, en tout cas. Toi, tu pars.
Ouais. Le mouvement n'est pas régi par les mêmes envies, déjà, je trouve.
Qu'est-ce qui te motive différent. Moi, je fais des expéditions engagées avec une cause sur l'environnement et la maintenance scientifique. Donc, j'ai des résultats à apporter. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Après, je fais du voyage et beaucoup plus classique, où j'aime prendre le temps, j'aime me laisser porter par les choses, parce que c'est très agréable de pouvoir juste tout débrancher et de dire, j'ai pas d'objectif, j'ai rien, c'est juste les choses qui viennent et qui me guident et qui me donnent envie de continuer. Donc c'est pas du tout la même chose à chaque fois. Il y en a un, tu lèves beaucoup d'argent et il y a des partenaires et tu as des résultats à mettre en place, mais c'est vraiment ça la différence entre l'aventure très simple, classique qu'on va faire et que je faisais quand j'étais plus jeune, et partir en voyage, me laisser porter par les choses, et à un moment donné rendre la chose plus professionnelle et de vouloir en faire un métier. C'est qu'à un moment donné, eh bien, tout comme un entrepreneur qui met en place un business, un projet, il va faire appel à des business angels ou des levées de fonds. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui vont te dire je te lâche 2 millions d'euros et éclate-toi mon pote et... on s'en fout. Si ça marche pas, c'est pas grave. À un moment donné, il y a forcément un retour sur investissement. Et donc, quand on veut avoir un projet comme ça d'exploration, et il y a beaucoup de support et de moyens financiers, et bien effectivement, il faut avoir un résultat.
Oui, parce que c'est l'une des questions. Ben, vas-y. Hein, je t'en prie, non, non, c'est... c'était l'une des questions qui avait émergé pendant la discussion de la table ronde. Alors, je n'avais pas assisté au début, je dois le dire. Je me posais la question, est-ce que un voyage sans objectif est possible pour vous? Et là, tu viens de répondre oui, c'est qu'il y a différents types de voyages pour toi. Il y a le voyage, comme tu me dis, l'expédition qui est... calibré avec un objectif qui est financé, etc. Donc là, c'est... Mais voyager sans objectif, est-ce que vous le faites?
Mais qu'est-ce qu'on appelle objectif, tu vois? Je suis partie en Nouvelle-Zélande avec l'objectif de me reconstruire. C'est un objectif, mais c'était tout. Mm-hmm. Donc c'est objectif, éclate-toi, suis ta joie. Mm-hmm. Donc voilà. C'est un objectif.
Et l'objectif, c'est le processus, en fait.
Et l'objectif, c'est aussi le filtre. C'est-à-dire que si ça ne me plaît plus, bah, dans ce cas-là, je ne suis pas en train de faire ce que j'ai envie de faire. Je racontais l'anecdote aujourd'hui d'être à Corfou et de me dire « Ah, c'est une cité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai pas de jus, je suis fatiguée, je ne trouve pas le lieu parce que je n'aime pas prendre de cartes, je préfère me perdre. Je me suis bien perdue, je ne peux pas lire les panneaux parce que ce n'est pas dans ma langue, enfin dans mon alphabet. Mm. Et bah, tant pis, ça ne me plaît pas, je change, c'est tout. » Donc, si l'objectif, c'est la joie, j'ai toujours un objectif.
Hmm. Et donc, c'est le processus. C'est pas forcément... Il y a un horizon,
pas la destination.
Ouais. C'est davantage l'horizon, ce qui te tend vers, mm-hmm. et c'est pas forcément la cible.
Oui. Et je pense que la différence entre voyage et vacances, pour moi, c'est ça. C'est quand j'étais salariée et que j'avais, malgré tout, 6 semaines de congé par an, ce qui est génial, mm-hmm. Je voulais remplir à fond. Parce que j'ai bossé toute l'année, et enfin je fais ce que j'aime, donc je veux remplir, beaucoup d'attentes. J'ai lâché les attentes, en fait, objectif mais pas d'attente.
Et un objectif mais pas d'attente, et comme le voyage commence aussi au coin de la rue, moi je vous rappelle que cette semaine, jeudi 25, on vous emmène encore en voyage pour une nouvelle session musicale dans le jardin de la radio de Fréquence 7 à Aubenas. Ça commence à 17h, ça dure jusqu'à 21h et des poussières jusqu'à la nuit tombante, voire tombée. On accueille deux groupes de musique talentueux, c'est deux duos. Les premiers, c'est Shadian, donc c'est percussion, guitare, poésie. C'est un voyage sonore à ne pas manquer. Le deuxième duo, c'est Kerchanga, donc c'est musique africaine, c'est pareil, c'est une invitation... au rêve et au voyage. Donc les apéros dans le jardin de Fréquence 7 avec à boire, à manger, les groupes Shadian et Kerchanga. L'entrée coûte 5€ ou un lancer de dés. Il y a une boisson incluse dans ces 5€. Soyez nombreuses, soyez nombreux. Pour l'instant, on arrive doucement à la fin de cette onde curieuse. Avec la suite du programme aujourd'hui sur Fréquence 7, à 13h vous redécouvrez Les Jardins Suspendus, à 15h c'est le Telex, donc c'est vos messages sur notre boîte vocale au 04 75 93 30 25. À 17h on rediffuse cette édition de L'Onde Curieuse, à 18h la rediffusion de Solidaire d'abord et à 21h l'émission de DJ Steph, Hexagone Jazz & B, cette fois consacrée au violoniste Michel Varlop. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi sur Fréquence 7 et dans vos joyeuses vies. On se retrouve demain pour une nouvelle onde curieuse. Bon après-midi et salut !